Pour l'association Moissac, ville de Juste Oublié, Jean-Luc Bécard s'entretient avec Roger Fichtenberg. Bonjour Roger Fichtenberg.
Bonjour.
Vous serez à Moissac les 27, 28 et 29 mai prochains pour la rencontre des villes et des justes.
J'espère être en forme pour y aller.
En tout cas, on l'espère aussi puisqu'on vous y attend. Alors vous ne serez pas comme beaucoup d'autres parmi ces enfants anciens de la maison de Moissac. Vous y serez au titre de votre passé de résistant, au titre de ce travail de réseau que vous avez installé entre les différents lieux où les enfants, les adultes pouvaient se cacher et se réfugier. Vos activités pendant la résistance, c'était quoi exactement?
Non, mais c'est vrai, dans le fond, je suis arrivé à Moissac comme ça, puisque je venais de Vichy, la Palice, et c'est Castor qui nous a dit, vous êtes tous mobilisés, vous allez à Moissac, et vous attendez les ordres. Et je suis obéissant, je suis venu à Moissac, j'ai attendu les ordres, et puis d'un ordre à l'autre, eh ben, j'étais toujours à Moissac, parce qu'on m'envoyait faire une mission, retour à Moissac, une autre mission, retour à Moissac, ce qui fait que je me suis installé à Moissac, et comme c'était bien mon coin, j'ai cherché un logement pour mes parents, et je les ai fait venir.
Et vous avez
je suis devenu un Moissaguet.
Et vous avez habité près de la gare?
En face.
Vous faisiez ces allées-venues, mais pourquoi faire?
Au fur et à mesure des nécessités, en s'adaptant aux besoins et en fournissant le matériel que nous avions plus ou moins à disposition. C'est pas un travail organisé, c'est un travail qui s'est organisé au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des besoins. Bon, alors j'ai les premières actions ont été de cacher, de poursuivre la cachette des gens qui avaient échappé à la rafle du 26 août. Maintenant, ils étaient planqués, mais il fallait s'occuper de leurs papiers, essayer d'avoir des faux papiers d'une part, et surtout s'occuper de leur carte d'alimentation, car ça, je vais faire un vilain jeu de mots, c'était vital.
Oui.
Si on n'avait pas la carte d'alimentation, déjà que les rations n'étaient pas grandes, si on ne pouvait pas en profiter,
on crevait de faim.
Alors, la première combine trouvée par les éclaireurs, parce qu'on est des gens ingénieux, ça a été le lavage. On trempait la carte dans une bassine avec un peu d'eau et un tout petit peu d'eau de javel. On laissait disparaître le nom, on faisait sécher, un bon coup de fer à repasser, et on réécrivait une nouvelle identité francisée. Voilà. Alors, bon, c'était bien, mais il y avait un mais, c'est que chaque mois, il fallait se présenter à la mairie pour changer le carton. Alors, au début, on n'a pas eu de difficulté, mais est venu un jour le fait de chaque personne devait se présenter chaque mois pour changer le feuillet à l'intérieur de la carte d'alimentation. Il est évident que les gens planqués ne pouvaient pas y aller, surtout qu'il fallait être inscrit à la mairie. Mm-hmm. C'est là où la mairie de Moissac nous a été d'un grand secours, parce qu'immédiatement, une employée avec la bénédiction urbi et torbi du secrétaire général de la mairie, Robert Darac, eh bien, immédiatement, on a pu changer les feuillets intérieurs. Et ça, c'était capital. Parce que c'était pas toujours facile. Je vous donne un exemple. C'est que chaque mois, j'avais une centaine de cartes d'alimentation,
ouais,
qui débarquaient, non seulement des planqués du coin, mais J'en avais qui venaient du Lot-et-Garonne, il y en avait qui venaient de Rouvillard, de chez Gigot, etc. Donc, j'avais tout un paquet de cartes et tous les mois, il fallait recommencer. Ça, ça a été un très, très bon travail. Mais enfin, on a toujours fait face chaque fois qu'il y a eu une difficulté qui s'est présentée. La carte d'identité. À cette époque, la carte d'identité n'était pas très répandue, elle n'était pas comme elle est maintenant. Mon père, par exemple, avant-guerre, n'avait jamais eu de carte d'identité. Non. Ce n'était pas indispensable. Dès que les cartes d'identité sont devenues, je dirais presque obligatoires, avec la présence de la police de Vichy d'abord et des Allemands ensuite, il était préférable quand même d'avoir une pièce d'identité. Carte d'identité était faite bien heureusement par les mairies. Ce n'était pas comme à l'heure actuelle par la préfecture. Si ça avait eu le système actuel, je ne sais pas du tout comment aurait été la parade. Mais dans l'état actuel de la situation de 1942, il suffisait d'aller dans une librairie acheter un carton de carte d'identité neuf. On allait au bureau de tabac voisin acheter un timbre fiscal. On collait le timbre fiscal sur la carte d'identité. Après un coup de tampon, on en remplissait avec ce qui était marqué sur la carte et le tour était joué. Oui, mais la police de Vichy s'est bien doutée qu'il y avait des faux papiers en circulation. Alors ils ont commencé à vérifier au lieu de naissance si la personne existait. Comme je vous ai dit, chaque fois qu'il y a eu un truc, on a fait la parade.
Bien sûr.
Voilà. Et la parade, eh ben, ça a été grâce à des mairies complices ou à des personnes complices. Mais ça avait commencé, je me souviens, à Moissac, avec Henri Vol, qui avait pris l'identité de Jean Guénard, qui était le bureau de...
Le libraire.
Voilà. Et ainsi de suite. Alors, avec la complicité de la personne qui était d'accord, à condition de ne pas vivre dans le même coin, ça...
Et de ne pas voyager au même endroit.
Valait mieux.
Oui.
Mais surtout, grâce à des complicités de mairie qui donnaient accès à leur fiche d'état civil, on a pu avoir très rapidement des identités. Et à Moissac, c'était très bien parce qu'il y avait énormément de réfugiés lorrains,
oui.
dotés d'un fort accent lorrain. Et c'était très utile pour des gens qui n'étaient pas lorrains, mais qui avaient un fort accent quand même, pour leur donner comme ça des identités
bien sûr, ouais.
De lorrain. Bon. Et le commissaire de police, d'ailleurs, était parfaitement dans le coup. Et vous voyez, à chaque fois, on s'adapte aux événements. Par la suite, ça a été le NEC plus ultra. On a découvert un jour, ça avait pris du temps, mais on l'a découvert, qu'un prisonnier de guerre rapatrié d'Allemagne, dont les Allemands s'étaient débarrassés, parce qu'il était en mauvaise santé, et il rentre chez lui, il se présente à la mairie avec son certificat de démobilisation, et il obtient carte d'identité, carte d'alimentation, carte de textile, carte de tabac, tout ce qu'on veut,
tout
le jeu complet. Alors, il a suffi de se procurer des
cartes de démobilisation
ou d'en fabriquer.
Ouais.
Voilà. Alors ça, c'est une très bonne combi. Voilà, les choses n'ont jamais été vraiment très stables, ça a été toujours... Et alors, nous avions entre nous de différentes régions, nous nous rencontrions dans des grands centres comme Lyon, comme Grenoble, comme de préférence Grenoble, d'accord, à cause des Italiens. On se rencontrait souvent à plusieurs chefs de la sixième et on échangeait justement nos combines. Moi j'ai ceci, moi j'ai cela, parce que de l'un à l'autre c'était différent et complémentaire. Ça c'était vraiment très bien et on a eu souvent des réunions de ce type. Moi j'allais à Toulouse très fréquemment pour voir Lucien Feynman qui était de Toulouse, Nicole Bloch qui s'occupait du Tarn, etc. Hein.
La sixième dont vous venez de parler, c'était la branche clandestine des éclaireurs israélites.
Oui.
Et vous avez fait allusion à Castor aussi tout à l'heure. C'était tout ça s'est constitué autour du réseau des éclaireurs.
Oui, c'est pas non plus, on va dire, un réseau qui s'est constitué, etc. Ça a pris beaucoup de temps. Dans un premier temps, on apparaît au plus précieux, s'occuper des gens qui étaient planqués et s'occuper de nos jeunes à nous, non seulement les scouts, mais les jeunes en général. Et il y avait quelques jeunes de planqués au moment des rafles du 26 août. Alors, pour tous ces jeunes, c'est là où notre action a été au départ vraiment importante, mais néanmoins, progressivement, il y avait un jeune, mais il y avait une famille autour. Donc on s'est occupé aussi de la famille. Mm-hmm. On n'est pas dit, on s'occupe que des jeunes.
Bien sûr.
Alors, c'est vrai que ça, c'est pas vraiment un réseau qui s'est constitué spontanément. On apparaît les uns et les autres au plus pressés, on se rencontre. C'est vrai et c'est aussi qu'on travaillait quand même dans les coins où on habitait. Moi, j'habitais Moissac, donc je m'occupais du Tarn et Garonne et du Lot et Garonne en particulier. Mais certains s'occupaient de chacun dans son département. Je me souviens, par exemple, Raymond Vinter, qui était le chef de troupe de Montpellier, s'occupait de la 6e Montpellier. Mmh. Alors, la 6e, pourquoi la 6e ? C'est toujours la grande question. Tout simplement parce que un jour, les éclaireurs avaient déjà été dissous, comme toutes les organisations juives, et incorporés obligatoirement à l'UGIF.
Oui.
Et nous étions devenus, nous les éclaireurs, la 4e direction de l'UGIF, la direction jeunesse. À l'intérieur de cette direction jeunesse, une division service social des jeunes, qui faisait uniquement un boulot social. Ça, c'est la partie visible de oui. l'iceberg, officielle,
oui.
et qui recevait des fonds officiels.
Et qui était reconnu par l'État français, l'État de Vichy.
Voilà. Le directeur de la 6e division service social des jeunes était Marc Agneau, qui était le secrétaire général des éclaireurs israélites de France, et qui est resté longtemps à Moissac, puisque ma mère a même été sa secrétaire. Elle était avec Edith Pulver, Louise Finkel et autres. Donc le secrétariat est resté longtemps. Et un jour, Marc et Edith Pulver sont partis à Grenoble pensant y travailler plus en sécurité avec les Italiens, mais ça n'a pas duré suffisamment, malheureusement. Voilà. Et j'avais pu rencontrer encore Marc quelques jours avant son arrestation, J'avais déjeuné à plusieurs reprises avec Edith Hulbert, également quelques jours avant qu'elle soit arrêtée. Alors, un jour, on ne sait pas pourquoi, c'est les facéties de Vichy et les Allemands, la fameuse direction jeunesse a été dissoute. Sauf le service social des jeunes.
Mais oui.
Qui a continué son activité visible et réelle. Alors nous, ça nous a bien fait rigoler, parce que justement, la sixième, c'était la couverture pour notre organisation clandestine.
Oui. Voilà.
Alors c'était le côté un peu gag, mais ce qui était bien, c'est que on recevait officiellement de l'argent qui servait de travail clandestin.
C'est magnifique. Oui. C'est de l'humour juif.
Alors un mot sur l'argent, hein, parce qu'on n'en parle jamais, et je me rends compte, en jetant un coup d'œil sur mes notes de frais, combien tout cela coûtait très cher. Pourquoi ? Il y avait nos déplacements, on comprend très bien, chemin de fer, autocar, quelquefois même taxi, parce qu'il n'y avait pas autre chose. Bon. Ensuite, hôtel, restaurant, wagon-restaurant, que sais-je. Bon. Lorsqu'on convoyait des gens, c'était doublé par deux. Je dis qu'on convoyait des gens pour la bonne raison que bien souvent nos jeunes étaient mineurs. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, on était majeur qu'à 21 ans. Donc la plupart de nos jeunes étaient mineurs, donc on s'en sentait responsable, et par conséquent, on les convoyait. Ça coûtait, bien entendu, le prix de leur déplacement. À ça, il fallait également que nous puissions vivre nous-mêmes, aller chez le coiffeur, je ne vais pas dire acheter un paquet de cigarettes, parce que, bon, mais enfin, ça pouvait arriver.
Bien sûr.
Voilà. Alors, je vois, effectivement, que ça coûtait très cher. En plus, les jeunes que l'on plaçait, c'était bien souvent dans des organismes, écoles professionnelles ou autres, et là on payait des pensions d'internes. Bon, quand on les plaçait dans les familles, elles demandaient souvent à être rétribuées, non pas pour gagner de l'argent,
mais pour pouvoir les nourrir.
Mais au moins pour.
Et nourrir, les habiller.
Un petit dédommagement. Oui. Et je vois les pensions d'enfants, par exemple à Dieulfi, c'était 500, 600 francs par mois. Alors, l'argent était absolument indispensable. On ne nous a jamais limité. On ne nous a jamais fait de remarque en disant, tu dis pas, non, jamais. On nous faisait 100% confiance. Si on donnait une note de frais avec le détail de ce qu'on avait dépensé,
c'était remboursé.
C'était admis comme représentant la vérité.
Voilà. Et jamais personne dans l'administration de Vichy ne s'est aperçu de ce à quoi servait cet argent.
Ah non, 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 parce que ça, c'était le côté clandestin. Hein. Ça, c'est Marc Agnew qui se débrouillait pour incorporer de l'argent officiel pour faire le travail clandestin. Mais l'argent que nous recevions, c'était de l'argent du joint. Surtout pas oublier de le dire. Parce que si nous n'avions pas eu l'argent du joint, nous n'aurions rien pu faire. Ce que je dis, il y a ce que nous avons dépensé, mais ce qu'on dépensait pour les enfants, il nous fallait donc l'argent du joint. Et on n'a jamais manqué d'argent. Il transitait des États-Unis en Suisse. et on le rapatriait en Suisse clandestinement et en espèces.
Mais là aussi, il fallait convoyer cet argent.
Pas question de payer par carte bleue ou par...
Oui, bien sûr. Donc ça aussi, il fallait le convoyer.
Mais c'était deux personnes, une en particulier, Maurice Brunet. C'était le gros de son travail.
C'était ce qu'il y avait peut-être de plus risqué dans ce que vous faisiez.
Non, mais c'était indispensable. C'est drôle, on fait toujours le silence sur ce problème de l'argent. Oui. Y compris d'ailleurs pour la résistance nationale. Parce que les maquis et tout ça, il fallait de l'argent pour les organiser. Et s'il n'y avait pas eu de l'argent qui arrivait de Londres, il n'y aurait pas eu de résistance non plus.
Quelles étaient les relations de la résistance juive avec les autres réseaux de résistance, les communistes, les catholiques, etc., les protestants?
Il n'y avait pas de cloison étanche, là, comme ça. Moi, je suis à ceci, toi, à cela. Non. Les gens qui résistaient à cette époque, d'ailleurs, n'étaient pas des résistants, c'était tous des gaullistes. Là, il y a un gaulliste, là, il y a un gaulliste. Alors, il y en avait partout. Je me souviens, une de mes premières missions à Perpignan, qui consistait à favoriser les évasions au camp de Rivesaltes et à munir les évadés de faux papiers, je pouvais pénétrer dans le camp avec une autorisation de visite que j'avais reçue à la préfecture des Pyrénées-Orientales, avec dans ma poche tout un paquet de autorisations de visite en blanc à remettre à des internés qui devenaient bien entendu des visiteurs et pouvaient ressortir gentiment. Voilà. Alors, ceci pour montrer comment on avait de l'aide auprès de même de je vais pas dire de la préfecture, mais d'un employé de la préfecture, d'un agent de l'État qui travaillait pour le gouvernement, mais qui était un gaulliste.
Beaucoup vous ont aidé dans ce travail-là, dans cette œuvre. Vous parliez de la mairie de Moissac, mais de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Beaucoup de fonctionnaires vous ont aidé à cacher, à faire bouger.
Absolument. Je l'ai dit au début de notre entretien, si nous n'avions pas eu la complicité de très nombreuses mairies. Quand je dis mairie, ça veut dire surtout secrétaire de mairie.
Oui.
J'en ai même eu un vers la fin, c'était peu de temps avant la libération, tout près de Houvillard, à Saint-Michel. Il me dit, je suis bien embêté parce que je vais avoir un contrôle de carte d'alimentation et bien entendu, je ne suis pas en règle. Alors, bon, on a réfléchi à comment il allait s'en tirer. Alors, on a trouvé que la meilleure solution était de simuler un cambriolage, casser une vitre, renverser du mobilier, fiche par terre quelques dossiers, et puis voilà, et il y a des cartes qui ont disparu. À Moissac, pour vous donner une idée, j'ai une employée qui passait, qui m'a dit un jour, écoutez, ne venez pas à la mairie d'abord vis-à-vis des autres, on ne sait jamais, c'est mieux, comme je passe devant votre porte le matin, vous me préparez le paquet de cartes d'alimentation et je les remets dans la boîte le soir. Or, elle ne le faisait pas nécessairement dans une seule journée.
Non, mais enfin, il fallait quand même le faire.
Il fallait quand même le faire.
Comment vous expliquez cette complicité de toute la ville de Moissac autour de ces activités, autour des enfants cachés, autour de la maison du quai du port?
Il y a eu partout dans toute la zone sud des lieux d'accueil plus sympathiques et plus ouverts que d'autres. J'avais les mêmes combines dans une mairie du Lot-et-Garonne à 15 km d'Agen où le secrétaire de mairie je m'installais à sa place quand j'y allais. J'étais chez moi, chez lui, et voilà. Lui, il était content quand je lui redonnais quelques cartes de tabac en plus. Il était heureux comme tout quand je lui apportais la carte de tabac. À ce moment-là, je pouvais prendre tout ce que je voulais. Par exemple, c'est lui qui m'a fait passer les cartes d'identité de mes parents à un double d'identité, bien entendu, donc une identité réelle. Il me les a fait passer par la préfecture. Les cartes d'identité de mes parents sont de la préfecture du Lot-et-Garonne. C'est lui qui est... Il n'y avait qu'une chose fausse dans l'histoire, c'était le domicile. Ils n'ont jamais mis les pieds dans cette commune.
Et quelles étaient vos relations avec Chata et Bouly-Simon ?
Je les voyais, je vais dire, presque quotidiennement. Chata, bien entendu, quand j'étais à Moissac. Mais Bouly, ça m'arrivait de le retrouver à un autre bout de la France. Je me souviens avoir voyagé avec Bouly de Grenoble à Lyon. Je m'en souviens d'autant plus qu'on a eu un contrôle de la Gestapo dans le train avec des mecs qui nous dévisageaient chaque voyageur l'un après l'autre. Avec Bouly, on échangeait des regards, comme ça. Bon, la maison de Moissac m'était grande ouverte. J'y passais souvent mes Shabbats. J'y passais souvent les fêtes. J'ai assisté à plusieurs mariages. J'étais chez moi.
C'était important, cette maison, dans le sud-ouest pendant la guerre.
C'était d'autant plus sympathique que moi j'avais de bonnes relations avec Chata et Bouly. Alors que quelquefois il y avait un petit tirage entre les directions de maisons d'enfants et la sixième. Et par exemple, quand il y a eu l'évacuation de la Grave, Chata m'a dit, je voudrais bien que tu t'en occupes. J'ai dit à Chata, mais n'oublie pas que je suis sixième, et je ne peux pas partir là-bas sans règle le problème, toi, avec Castor ou avec Henri Vol. Et moi, je suis d'accord, mais il faut que vous ayez le problème entre vous. Et dans ce cas-là, oui, je partirai. Ça s'est réglé, je suis parti. J'ai évacué les 63 enfants on a mis un petit mois entre la période où je leur ai fait leur papier, ce qui m'a pris une semaine, et le moment où Kuala, Neige, quelquefois même Edith Denwald, elle s'appelle une fois Kremsdorf und Verdenwald. On trouvait des places
dans des familles,
ouais. Dans la Drôme et dans l'Ardèche. Et au fur et à mesure, on sait pas entre nous, c'est tel enfant à tel endroit, tel enfant à tel endroit. Et je téléphonais à la Grave en disant, voilà, vous m'envoyez si vous êtes gentil. Parce que j'ai oublié, quand je suis parti en vitesse, et j'ai oublié mon pantalon rouge, ma brosse à dents, mon rasoir, etc. Et chaque mot correspondait à un nom d'enfant. Donc, très rapidement, je peux dire que En un mois, les 63 enfants ont été placés. Je les ai mis beaucoup dans la Drôme, dans l'Ardèche, donc aussi Chambon. Et puis d'autres, si je prends les destinations, j'ai retrouvé sur mes notes de frais les lieux où on faisait les petits convois d'enfants. Il y en a même eu à Chamonix, il y en a eu. Mais c'était surtout la Drôme et l'Ardèche. Et la preuve, c'est comme ça que j'ai retrouvé trois enfants cachés, puisque c'est un jour une amie qui est réalisatrice de films documentaires qui me demande si je connais Sam Greenspan. Je lui ai dit non, pourquoi est-ce que cette question ? Elle m'a dit parce que j'ai un ami réalisateur comme moi qui a fait un film sur Sam et Jackie, un enfant planqué et le fils des gens chez qui il était planqué et qui est son copain depuis plus de 70 ans. Et il a fait un film là-dessus qui est vraiment touchant. Elle ajoute, c'était un enfant qui était adulte. Quand elle me dit ça, je reprends rapidement ma liste de Dolphy et je le retrouve.
Voilà. Donc vous l'aviez convoyé lui aussi?
Je ne l'ai pas convoyé, non. J'ai trouvé que c'était quoi là qui l'avait conduit.
Ah oui.
Moi, j'étais le chef d'orchestre.
Ensuite, vous avez joué un rôle important au moment de la libération aussi.
Oui, enfin, important. Je n'ai pas libéré la France.
Non.
Non. Non, mais c'était...
Mais vous avez joué un rôle.
Non.
Indéniable.
Non, mais c'était un travail important parce que quand je suis tombé sur le colonel qui commandait la sous-région de Toulouse, sous-région ouest Toulouse, je raconte, il a voulu savoir qui j'étais et ce que je faisais. Je lui ai raconté en quelques mots. Elle m'a dit, c'est très important, il faut à tout prix que tu continues parce que personne d'autre ne le fera à sa place. Moi, je vais te donner du boulot de faux papiers à faire parce qu'on n'est pas du tout équipé pour ça. Je vais te donner à faire des articles pour la presse clandestine parce que je manque de mecs capables de le faire. Je vais te donner à faire des tracts, mais surtout à constituer des groupes de villes pour le maintien de l'ordre au moment de la libération du territoire. Parce que on craint beaucoup que ce soit le bordel. Ils avaient une grande crainte, mais il ne m'a pas dit, mais je l'ai bien senti dans toutes les paroles, d'une prise de pouvoir par les communistes.
Oui, bien sûr.
D'une part, et j'étais en mesure de le faire. Et d'autre part, éviter les exactions, les vengeances personnelles, etc.
Les règlements de compte.
Il va y avoir un besoin de maintien d'ordre et de mise en place des libertés républicaines qui va être très important. Et ça, on peut dire que c'est un travail important. C'est pour ça que ma mission, le jour de la libération, a été d'occuper la préfecture du Lot-et-Garonne. Je me suis installé dans le bureau du préfet, tranquille, en attendant que le nouveau préfet nommé par la résistance prenne ses fonctions, mais en consignant dans ses appartements le préfet de Vichy, en le priant de ne pas tenter de sortir de chez lui. Donc oui, c'est vrai, il y a eu certaines phases de mon action qui ont été relativement importantes avec par la suite toutes les actions de police, parce que nous avions, je suis devenu l'adjoint au commandant de la prévôté du Lot-et-Garonne, ce qui signifiait qu'on avait le contrôle de tous les organismes de police, gendarmerie, police municipale, etc. Il y avait dans ces organismes des boulistes. Vous savez, il y a un organisme dont on parle très peu et qui a joué un rôle important, c'est le NAP, le noyautage des administrations publiques. Ça a été très important. Et le NAP, il y avait beaucoup de travail. Oui. J'ai eu énormément de travail et aussi beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés parce que nous étions pris, mon chef et moi, entre deux feux. Un commissaire de la République à Toulouse qui nous pressait de réunir le tribunal militaire pour avoir des condamnations de miliciens et autres et donner satisfaction à l'opinion publique, mais avec une difficulté énorme, c'est-à-dire que nous n'avions plus de juge d'instruction. Les juges d'instruction de Vichy s'étaient fait la valise. Ce qui montre bien que si à la libération on avait renvoyé l'administration qui était sous Vichy, ça aurait été le bordel total. Moi, sans juge d'instruction, ça a été terrible.
Mais ce que vous voulez dire là, c'est que votre souci, c'était d'abord de rétablir un ordre républicain.
Oui. Et c'était pas facile. Vous voulez un exemple ?
Oui, bien sûr.
Vous avez des jeunes. Pendant des mois, ils sont dans le maquis et ils vont piller des bureaux de tabac pour avoir de quoi fumer dans les maquis. C'est très bien. C'est pour les maquisards. Arrive la libération, puis il y a un bureau de tabac, ah non, c'est un délit. Ça ne se fait plus. Et je me souviens que j'ai eu deux jeunes qui avaient été arrêtés par les FFI pour ça. Quand j'ai parlé avec eux, ils étaient bouche bée. Alors, le problème, c'est qu'on a eu aussi un nombre incalculable de gens qui ont été arrêtés par les FFI, qui les prenaient et qui les amenaient à la maison d'arrêt, sans dossier, sans rien, etc. Le directeur de la maison d'arrêt débordait les prenants du moment que c'était les FFI. Et puis nous, quand on s'en aperçoit, on dit, sinon pas de dossier, vous ne les prenez pas. Et vous n'acceptez que les gens avec un ordre d'écoute de notre part, parce qu'on se retrouvait avec 800 personnes arrêtées pour lesquelles on n'avait pas de dossier. Alors voilà, il y a la difficulté. Pas de dossier, 800 personnes arrêtées et pas de juge d'instruction. Il a fallu s'en remettre à des gendarmes. Il y a eu les gendarmes. Bien. J'ai eu un jour toute une conversation avec le commandant de gendarmerie qui avait déboulé dans mon bureau parce qu'on avait arrêté un de ses hommes. Et je lui ai dit que je lui apprenais rien en lui disant que parmi ces hommes, il y en avait qui avaient traîné les pieds et qu'il y en avait qui avaient fait du zèle. Voilà, je ne vous ai même pas parlé des passages en Suisse. Elle est passage en Espagne. Et pourtant, je voudrais vous en dire un mot, parce que C'est intéressant. Bon, le passage en Suisse, c'est bien connu, c'est Annemasse, c'est les passeurs. Avec les Italiens, ça marche d'autant mieux qu'ils s'en foutent complètement. Ça les intéresse pas du tout. À partir du moment où c'est les Allemands, c'est quand même différent. Je veux vous dire aussi quand même que j'ai pas beaucoup de sympathie pour les douaniers suisses qui non seulement au-dessus de 16 ans n'acceptaient absolument pas de sur le territoire helvétique et refoulaient impitoyablement. Et pour les mêmes douaniers qui d'ailleurs vers les derniers mois de la guerre, la Suisse étant entourée par les Allemands de tous les côtés et leur sentiment étant plutôt germanophile, ils livraient directement aux Allemands et se contentaient pas de refouler. Voilà. Alors là, j'ai ma petite opinion sur les Suisses. J'ai beaucoup d'amis en Suisse et je ne me gêne pas pour leur dire. Ils n'y sont pour rien. Hein. Ensuite, avec la frontière espagnole,
oui.
Ça c'était plus important. Ça s'adressait bien entendu à des jeunes adolescents et des jeunes adolescents très solides parce qu'il fallait franchir ce mur important qui est la barrière des Pyrénées. Puisque impossible, bien entendu, de passer dans les cols gardés par les Allemands. Il fallait donc passer entre les cols. Et il y avait quelques passages comme ça, mais qui étaient extrêmement pénibles comme marche. Et bon, ça, c'était le côté physique. Le problème, c'est que. Et c'est pour ça que je vous raconte cette histoire. Nous, on travaillait en cheville avec des républicains espagnols qui, bien entendu, ne pouvaient pas être en Espagne, mais et pas davantage en France.
Oui.
Alors, ils vivaient sur les Pyrénées, ils étaient armés, ils connaissaient les heures de patrouille des Allemands, heureusement, les Allemands toujours bien organisés, la patrouille tous les jours à la même heure. Donc, ça avait des moments où on était tranquille pour passer. Une fois qu'on arrivait à la frontière, ils remettaient leur papier d'identité aux passeurs, parce que pour les Espagnols, ils étaient censés être des Canadiens prisonniers de guerre évadés. Alors, ils pénétraient en Espagne, bien entendu, ils tombaient sur la garde civile qui les arrêtait et qui les internait au camp Miranda, où ils restaient peu de temps parce que, pour faire une image, je dirais que chaque homme était libéré contre un sac de farine. Quoi. C'était à peu près ça, le marchandage avec les Américains. Donc, ils pouvaient passer en Afrique du Nord. Une fois qu'ils étaient en Afrique du Nord, la plupart se sont engagés dans la deuxième DB. Moi, deux jeunes que j'avais fait passer, je les ai retrouvés après la guerre, à Agen, et il y avait ils s'étaient engagés dans la deuxième DB, ils sont restés un petit moment en Afrique du Nord, puis on les a transférés en Grande-Bretagne, de là ils ont débarqué en Normandie, après ils ont foncé sur Paris, Strasbourg, et Berchtesgaden, et où ils ont terminé à Berchtesgaden.
Alors c'est, sous le nid d'aigle.
C'est-à-dire la joie de ces jeunes. Voilà. Alors c'était le côté français libre, français combattant, dont on ne parle pas suffisamment.
Quand vous vous êtes engagé dans la résistance, c'était un concours de circonstances, en quelque sorte. Et vous n'étiez pas encore majeur.
Ah si, j'étais majeur. Puisque je suis devenu majeur en octobre 42. Alors, on a commencé notre activité clandestine en août 42. Je suis devenu majeur presque tout de suite.
Mais cette...
mes parents m'ont fichu la paix.
Mais vous les avez...
savaient ce que je faisais.
Et vous les avez aussi aidés. Vous les avez aidés aussi. Vous les avez cachés, vous leur avez trouvé une maison.
Oui. Nous avions des amis dans un immeuble voisin ici. Lui était un ancien combattant comme mon père, ancien combattant 14 comme mon père. Et il avait un fils de mon âge. Et un jour, on a un ami qui a quitté Moissac, alors, et qui voulait venir faire un petit tour pour voir comment allaient ses affaires à Paris. Et on lui avait dit, ben, écoute, passe voir nos amis là pour voir comment ça fonctionne. Et il est revenu avec leur livret de famille et des bulletins de naissance et autres. J'ai encore le faux vrai livret de famille de mes parents.
Alors, cette jeunesse pendant la guerre, ça va déterminer toute votre vie après. Votre engagement politique.
Oui, il y a une sorte de. De continuité, peut-être. J'ai jamais bien réfléchi à la question. C'est vrai que mon engagement, en particulier au COJASOR, en 1945, c'est quand même la suite logique.
Ouais.
Mais c'est drôle parce que tout vient sans que j'aille le chercher. Je m'explique. Je viens d'être démobilisé. Je suis comme ça. Je vais vous faire une petite confidence. Après la libération, j'ai fait une déprime. Ça semble bizarre. Je vais vous dire... Je vais vous expliquer pourquoi.
Ouais.
Et vous allez trouver que c'est pas tellement bizarre.
Oui.
Pendant 2 ans, je suis là en pleine action.
À fond.
24 heures sur 24. Avec un but et un idéal. Et puis là, le but arrive. L'idéal est atteint. Plus rien à faire. Je suis là comme un con. Alors je suis là un peu... un peu désœuvré, heureusement. J'ai eu mon boulot dans l'armée, mais c'était pas un gros boulot, sauf les difficultés que je vous ai expliquées
ouais,
tout à l'heure.
Ouais.
Et après, je suis démobilisé en janvier 45. Hasard, je rencontre sur le boulevard de la République à Agen. Il est vrai que là, on rencontre tout le monde. Je vais même faire une petite parenthèse là. C'était marrant parce qu'il y avait au centre de ce boulevard un grand café. Et c'est là où on se retrouvait avec le colonel et son adjoint. Et on était assis tranquillement à la terrasse de ce grand café alors que les officiers allemands passaient eux aussi tranquillement sur le boulevard. Les officiers allemands n'auraient jamais pu supposer que les deux personnes qui étaient assises là devant eux étaient les deux chefs de la résistance de la région. Donc je suis bien d'être démobilisé, je suis sur le boulevard de la République. Et je rencontre un ancien gaulliste fonctionnaire qui me dit qu'est-ce que tu fais? Je lui dis là, rien, je suis en vacances. Il dit, je vais avoir besoin de toi. Je dis, pourquoi? Je suis directeur départemental du ministère des prisonniers déportés réfugiés et j'ai besoin de quelqu'un pour organiser la campagne du retour, pour le retour des prisonniers qui vont affluer d'un coup. Ok. Et c'est comme ça que je rentre au ministère pour une durée limitée de la campagne du retour. Ma mission ne va pas jusqu'au bout que je reçois à mon bureau la visite de Sigoy, André Kissler, fondateur avec Castor des éclaireurs israéliens de France, qui habitait à Jeun ainsi que sa mère, et qui était devenu depuis 2-3 mois le directeur du bureau de bienfaisance d'Agen, mais qui était devenu le Cojasor. Et il était accompagné de Simon Père, que j'avais connu dans la résistance, et il me dit, voilà, on a un problème, on a 120 juifs allemands qui sont toujours dans un camp dans le Gers. On ne voudrait pas qu'ils y passent encore un nouvel hiver. Alors on a mis tout le monde sur pied et on a recherché et enfin on vient de trouver, grâce à notre assistante sociale du Tarn, un hôtel tout équipé, tout prêt à fonctionner à la Côte dans le Tarn, où on peut mettre facilement 130-140 personnes. Alors on va louer cet hôtel et on voudrait savoir si tu peux en prendre la direction. Ben, j'ai dit je veux voir de quoi il s'agit. Et nous sommes montés à la Côte. J'ai découvert une petite station thermale charmante d'ailleurs. Et j'ai dit, mais c'est un gros boulot. Il m'a dit, t'inquiète pas, tu auras tout le personnel que tu veux. D'ailleurs, on garde le personnel de l'hôtel et tu auras le personnel dont tu as besoin. Probablement d'ailleurs que les hébergés voudront même donner un coup de main pour passer le temps. Je dis, oui, mais les questions sociales. Ah non, notre assistante sociale du Tarn va monter, elle, ici, et c'est elle qui va faire tout le travail social. Soit c'est le travail de direction, le travail administratif. Bon, ça marche. Elle me veut partir
à la Côte.
À la Côte. Je fais connaissance à Castres, au passage, de l'assistante sociale du Tarn qui avait trouvé l'hôtel. Je la trouve formidable.
Et elle aussi, elle vous trouve formidable.
Et ce qui fait qu'on est resté 50 ans ensemble. Et à partir du mois de octobre 1945, j'ai pris la direction de cet hôtel. J'ai appris sur le temps, finalement. Bon, une gestion, c'est une gestion, hein, mais problème de ravitaillement, etc. Et la première chose que j'ai faite d'ailleurs, c'est d'aller rendre visite au préfet du Tarn, en lui expliquant en quoi consistait notre travail, et en lui disant que le plus important, à mon sens, c'est de rendre une identité à ces gens qui en sont privés depuis des années, qui ne sont plus que des numéros, et à leur établir des papiers d'identité. Le préfet charmant m'a dit que ses services sont à ma disposition, etc. De la même façon, je suis allé voir l'adjudant de gendarmerie de la Côte en lui disant, écoutez, je connais, il faut que selon la loi, chaque jour, je déclare les entrées et sorties de gens qui passent la nuit dans un hôtel, même si c'est privé. Ce qui est important pour moi, c'est que vos hommes ne viennent pas. Je suis à votre disposition, je vous apporterai moi-même
les documents.
Surtout qu'ils ne viennent pas, parce que vous imaginez qu'un uniforme de gendarme, ça n'en plaît pas beaucoup. Voilà. Et puis, les visites se sont succédées. J'ai eu celle de M. Herbert Kaplan du Joint, qui est venu pour voir ce qu'on faisait avec l'argent du Joint. Il est reparti en disant qu'il était très, très heureux de voir comment il m'a envoyé une lettre adorable. Il était accompagné de Madame Lévy. Tous deux étaient encore en uniforme américain. Et j'ai dit, moi, ce qui me gêne le plus ici, c'est d'être privé de tout, parce que je suis à 50 km de Castres et j'ai pas de moyen de communication en dehors d'un tortilla ou une Micheline une fois par jour. C'est tout. Vous venez à Paris et je vous donne une camionnette. C'était une ambulance de l'armée américaine qui me bouffait beaucoup d'essence. Mais j'avais du quoi me déplacer et aller au marché. Voilà, alors je suis resté un an à la Côte. Et puis au bout d'un an, ma fiancée et moi sommes montés voir Julien Gozlan, directeur des Cojasor à Paris, en lui disant nous voudrions nous marier à Paris. Et par conséquent, elle nous a dit, ok, c'est d'accord, vous en faites pas, il y a du boulot pour vous. Et on a pu constater quoi. Et en fait, mes responsabilités n'ont fait que croître. Sans arrêt.
Merci, Roger Fichtenberg, de nous avoir accordé ces quelques minutes d'entretien.